salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, c'est l'été chez 7 milliards de voisins et nous prenons le temps d'une série d'étés pour comprendre comment nous vivons ensemble dans les villes du monde. Aujourd'hui, vivre dans une ville sous cloche, Pékin, en Chine. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Je ne sais pas s'il est utile que je vous présente aux auditeurs, correspondant de RFI en Chine pendant près de 3 ans et demi, c'est bien ça?
C'est ça.
Et comme tous nos invités, c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission, vivre dans une ville sous cloche, Pékin, pourquoi donc?
Parce qu'on est un peu dans une bulle dans chacun des quartiers de Pékin, donc la cloche, l'esprit village. Moi je trouve que c'est une immense ville, mais c'est aussi l'esprit village, vous verrez pourquoi dans les ruelles de Pékin, on vit comme ça. Puis sous cloche parce que c'est la capitale des empereurs, la capitale qui donne aujourd'hui encore l'heure jusqu'au Xinjiang, donc une capitale politique très surveillée, sous cloche. Et puis bien sûr la pollution, hein, on vit sous cloche parce qu'il y a quand même, c'est gris hein, Pékin.
Et vous signez également la programmation musicale de l'émission, Stéphane Lagarde, où tout ce que vous voulez savoir sur la vie à Pékin, et bien sûr toutes vos questions, les voisins et les voisines, sur le fil Facebook ou sur Twitter. Chez 7 milliards de voisins aujourd'hui à Pékin avec Stéphane Lagarde qui signe la programmation musicale. On vient d'entendre Bling Bling Bling. Il paraît que c'est un groupe de Pékin avec une chanteuse un peu déjantée.
Alors Fouran, ouais, elle est magnifique cette jeune fille. Elle est en combinaison souvent moulante, rouge. Elle aime beaucoup le rouge par exemple. Elle a les cheveux fluo, orange parfois. Et c'est un groupe complètement dingue qu'on voit sur les scènes. La scène musicale est assez animée à Pékin. Alors ça s'appelle Quincy Big Shark.
Hein,
le groupe, et là on entend dans la chanson Nali Shewodejia, c'est ma maison ici. C'est vraiment un groupe pékinois qui est très connu des Pékinois.
Il y a beaucoup de concerts à Pékin, beaucoup de scènes musicales, vous le disiez, malgré la première des cloches à Pékin, vous nous le disiez Stéphane Lagarde, c'est cette chape de pollution.
Alors,
j'allais dire,
je suis venu sans masque aujourd'hui pour parler au micro, mais en fait, j'en mettais pas souvent parce que j'aime tellement cette ville. Je me dis que même avec la pollution, c'est pas grave, on vit avec. Oui, effectivement, on l'a entendu, on en a parlé tellement, hein, même sur RFI, de cette pollution qui mine les Pékinois, qui les déprime, hein, vraiment profondément. On avait fait un reportage sur les guerriers du brouillard. Ce sont des intellectuels. J'avais rencontré un journaliste, notamment du Beijing News, donc les nouvelles de Pékin, qui écrivait sur son blog, qui allait, avec d'autres et des militants, aller mesurer la pollution quand c'était encore interdit d'en parler, hein, ces fameuses PM2,5. Ce sont des micro-particules qui rentrent dans les poumons. Et donc, ces guerriers du brouillard, ces intellectuels, qui n'avaient pas le droit à l'époque, c'était tabou de parler de ça, allaient mesurer la pollution dans leur jardin, dans les rues. Et voilà, on avait rencontré ça. Alors, on vit comme ça tous les jours au quotidien, Emmanuel, avec. On voit beaucoup de masques aujourd'hui, c'est même tendance. C'est assez rigolo de voir ces masques de couleur très branchés. Hein, il y a des masques qui sont un peu chers, pour les jeunes en tout cas. Et puis, on vit aussi avec un purificateur d'air dans les maisons. Nous, on n'en avait pas, mais la plupart des expatriés en ont, c'est quand même assez cher. Mais même beaucoup de Pékinois riches ont ont ces purificateurs d'air, à commencer par les dirigeants. On avait découvert que les dirigeants avaient ces purificateurs d'air alors que c'était encore interdit de parler de la pollution jusqu'en 2011, donc. Et donc, on s'équipe de ces purificateurs. Et pour l'anecdote, moi, j'ai une copine qui s'appelle Catherine Mercier, qui était correspondante de la radio de la télévision canadienne à Pékin, qui parle parfaitement chinois, qui adore la Chine, qui est repartie au bout de 2 ans, entre autres, à cause de la pollution. Elle disait à Montréal, bon, je passe mes hivers devant la cheminée, à Pékin, je le passe devant le purificateur d'air. Alors, un purificateur d'air, c'est carré, hein, c'est pas très beau à voir, hein, dans la maison, quand même. Donc,
mais il y a des Pékinois qui envisagent de quitter Pékin, c'est-à-dire que ça a une incidence, y compris jusque-là, dans la vie quotidienne, la pollution aujourd'hui à Pékin.
Oui, on l'a dit, on dit notamment qu'il y a des nouveaux bobos, hein, il n'y a pas eu de hippies en Chine, mais il y a eu des bobos. Il y a des bobos aujourd'hui qui vont, par exemple, dans le sud de la Chine, dans le Yunnan, et qui pensent s'installer, qui fabriquent des petits commerces, parce que des jeunes, hein, notamment, qu'on en marre de la pression, pas simplement la pollution. C'est difficile de dire que la pollution fait partir les gens et fait partir les expatriés, parfois, mais les Pékinois, c'est difficile parce que c'est quand même le centre encore névralgique de la Chine, c'est le travail. Mais certains partent, effectivement, disent, c'est plus possible, la pression à la fois, toutes les pressions dont on va parler, hein, le travail, mais aussi la pression de la pollution. Donc oui, ça fait partir. On parle même d'une nouvelle capitale. Il y a des rumeurs qui disent qu'un jour, Pékin, tellement c'est grand, hein, si périphérique, les embouteillages, tellement.
Si périphérique autour de la ville. Alors, il faut bien comprendre qu'on est au nord de la Chine, qu'on a un climat sec, hein, très aride tout autour de la ville. Normalement, beaucoup de soleil toute l'année.
C'est fabuleux. Oui, moi qui suis.
On ne le voit plus.
Parisien, là, qui veut redevenir parisien, je trouve quand même que Pékin est formidable pour le soleil. On a des saisons, notamment l'automne, c'est magnifique, c'est ruelle sous le soleil. Vraiment, c'est
très
beau.
Et on le voit encore, le soleil.
On le voit, mais de moins en moins à cause de la pollution. Donc, c'est un vrai problème, effectivement.
Mais en même temps, Pékin.
Parce que c'est une capitale du désert, effectivement, d'une certaine manière. C'est difficile. C'est semi-désertique autour. C'est pas très le Rebé, hein, la grande province qui entoure Pékin. Quand on voit les vignes, c'est difficile. Il fait très froid. Et puis c'est très sec. On est dans le nord, effectivement.
Donc, Pékin n'est que la 3e ville du pays en même temps. Alors, certes, entre quoi 18 millions, 20 millions d'habitants.
Alors ça, c'est très vrai. On dit qu'on veut partir de Pékin. Mais aller où? Pour aller où? Parce que toutes les grandes villes, l'agglomération de Chongqing, donc dans le sud, qui fait 30 millions d'habitants, hein, c'est pollué. Chengdu, dans le Sichuan, c'est pollué. Même Shanghai, aujourd'hui, est moins pollué, mais elle l'est quand même. Donc effectivement, pour aller où? Toutes les villes de Chine aujourd'hui ont ce problème d'une urbanisation galopante qui a entraîné la pollution.
Est-ce qu'on est dans une ville gratte-ciel comme Shanghai ou pas
Alors non, justement. Alors beaucoup d'expatriés, en tout cas, préfèrent Shanghai au premier abord parce que c'est un peu Londres, Shanghai, sans droit de vote. Mais enfin, c'est Londres avec des
gratte-ciel. Londres sans droit de vote, c'est bien résumé. Shanghai.
Avec des gratte-ciel, c'est très beau. Le nouveau Londres, en tout cas. Hein, et Pékin a moins de tours, en tout cas. Mais ce qu'il y a à Pékin, c'est que depuis les Jeux Olympiques, ils ont construit des bâtiments, moi je trouve, magnifiques. Il y a aussi un Pékin moderne avec des. C'était un peu un terrain pour les architectes à un moment. Donc ils ont construit des belles tours aussi. Il y a un quartier du business, hein, comme souvent dans les villes asiatiques. Donc non, il y a aussi des immeubles tout à fait modernes, mais on reste quand même dans une ville plane, avec des cours carrés, des ruelles, même si elles sont détruites encore aujourd'hui. Il y a le quartier de la Tour de la Cloche, là, ça fait hurler les Pékinois, qui va être en partie rasé, enfin une partie. Donc oui, ça continue les destructions, mais il y a quand même, ça reste une ville, quand on regarde, qui est très plane, hein, par rapport aux autres villes de Chine.
Ces quartiers, effectivement, très planes, cohabitent avec les tours à certains endroits.
Oui, oui.
Ça s'entrechoque de façon très proche.
Toujours, mais oui, ça s'entrechoque, mais en même temps, c'est ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est la culture à la fois de ces ruelles et de ces tours. Même sous les tours, on est dans l'esprit village. Moi, ce que je définis comme un esprit village.
Alors, esprit village, c'est vrai que ça peut surprendre nos auditeurs, hein. Esprit village dans une ville de 18 ou 20 millions d'habitants.
Avec ses périphériques.
Voilà, mais on va y revenir.
Yeah.
Esprit Village ou Vivre sous cloche, raconté par Stéphane Lagarde en direct sur RFI. C'est presque un bon dîner entre amis que vous nous avez apporté là à Pékin.
Oui, là, parce que ce sont des... Alors ça, vous l'entendrez pas sur disque, c'est une reprise évidemment, non. Mais on voit que ce sont des cuisiniers dans les ruelles de Pékin. Alors il faut imaginer une toute petite ruelle avec des lanternes rouges, l'odeur du charbon, hein, qui est... Si on parlait de pollution, hein, il y a toujours cette dépendance au charbon, donc on sent le charbon. Moi, j'ai fini par aimer cette odeur en arrivant à Pékin. Ces petites ruelles, on arrive dans un restaurant du Yunnan. J'y allais souvent avec du poisson grillé. Vous savez, ces salades de fleurs qu'on fait dans le sud de la Chine, dans le Yunnan, dans les montagnes. Et ce sont des musiciens qui n'ont pas vraiment réussi dans la chanson, mais moi, je les trouve très doués. Enfin, on entend qu'ils sont pas encore été produits. Ce sont des musiciens qui font de la cuisine, donc ils font
la cuisine
aussi bien que la chanson, mais c'est tellement convivial. Ils jouent en cuisinant, quoi, et puis en accueillant leurs convives. Donc voilà, l'esprit village, c'est ça aussi, c'est que on peut être dans un quartier et se retrouver vraiment avec des cultures différentes. Pékin, c'est formidable pour le... S'il y a toute la Chine à Pékin, c'est ça qui est extraordinaire. On a toutes les cultures. Vous allez sur une passerelle de Pékin, vous voyez un Tibétain vendre de l'argent, un Tibétain des plateaux du Sichuan. Et puis, il y a cet esprit des ruelles, moi, parce que j'ai vécu dans ces ruelles, dans ces routons, comme on les appelle. Emmanuel, c'est des gens qui sortent de leur maison en pyjama, toute heure du jour ou de la nuit, hein, qui vont parce que...
Le ventre à l'air, m'avez-vous dit,
voilà,
même parfois.
Ah oui, on appelle ça le ventre de Bouddha. Ça avait été interdit pendant les Jeux Olympiques. C'est quand on a trop chaud. Moi qui ai mangé pas mal de nouilles chinoises, je sais que je pourrais le faire. En tout cas, on relève son t-shirt sur le ventre et puis comme ça, on sent bien mieux l'été parce qu'il fait très 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 chaud. Donc ça s'appelle le ventre de Bouddha. On est en pyjama dans la rue, complètement décontracté. Il y a aucun problème. Pourquoi?
Parce qu'on est dans son quartier.
Là. Parce qu'il y a ce que j'appellerais la proximité des toilettes publiques. On va quand même là, ça crée des liens. Il y a eu des toilettes publiques pendant des années, donc on est tous. Il n'y a pas de porte dans les toilettes publiques souvent, et donc on est tous l'un à côté de l'autre. Je sais pas si on peut raconter ça à la radio, mais une occidentale m'avait raconté l'anecdote. Par exemple, pour les filles, quand on change sa serviette hygiénique, des fois, il y a des échanges. Nous, on n'a pas celle-là. Voilà. Ça va jusque-là. Avec une révolution aujourd'hui, quand même, parce qu'il faut pas rester que dans les clichés. Aujourd'hui, encore, on est en pyjama dans les routons, mais il y a aussi une révolution. Moi, je l'ai mesuré pendant ces 4 ans. Il y a une explosion, par exemple, dans les grands magasins des rayons salle de bain et toilettes, justement, parce qu'aujourd'hui, la Chine devient riche. On sait que c'est un des pays, c'est la deuxième économie mondiale, et donc, dans les ruelles également, on s'équipe en toilettes, donc ça va se perdre, cet esprit village. Mais cette intimité des toilettes publiques fait qu'on se parle, qu'on se connaît. Par exemple, dans mon routon, il y avait un coiffeur de rue qui prenait jamais de vacances, qui était là tout le temps avec sa blouse blanche et qui coiffait les gens dans la rue. Il connaissait tout le monde. Certains disent qu'ils donnent aussi parfois à la police les choses qui vont pas, hein, qui peut être un surveillant.
Vivre sous cloche, ça sera le deuxième tiroir de l'émission, effectivement, la chape de plomb. Alors, on a des questions qui nous parviennent sur le fil Facebook, notamment de Marvel, qui pose des bonnes questions de Brazzaville. Je vous les lis, hein, Stéphane. Marvel veut savoir, alors déjà il nous dit, vu à travers les médias, cette ville Pékin semble être fermée, très codée. Il veut savoir comment vivent les Pékinois par rapport à une ville occidentale comme Paris. Est-ce que cette ville est bouillante comme une ville africaine telle que Brazzaville? Alors déjà, si on se met à l'échelle, soit d'un Brazzavillois, soit d'un Parisien.
Alors moi, Marvel, j'ai pas été à Brazzaville, je connais que Bamako, par exemple, en Afrique, donc je peux pas parler de Brazzaville, mais ce qui est sûr, c'est que il y a vraiment un côté africain. Ça, c'est les Chinois qui le disent, hein, et les Africains quand on les rencontre à Pékin. Il y a le côté sur les marchés, aller sur un marché chinois au centre de Pékin, c'est incroyable comment on négocie encore les légumes, on négocie les choses. C'est tout pareil, paraît-il. Et puis il y a cette effervescence qu'effectivement on ne retrouve pas à Paris. Hein. Ça, c'est sûr, c'est beaucoup plus froid à Paris que donc il y a ce côté latin.
Donc les commerces ambulants, nous demande Marvel, oui, on les trouve.
Ah bah
les
oui, pires. On a encore aujourd'hui dans les routons, c'est assez formidable. Il y a des collecteurs de carton, des couteliers. Moi, je connais un coutelier qui fait pour 5 kwai, donc moins d'un euro, qui vous aiguise vos couteaux. Je crois que le terme c'est rémouleur.
Il y a étonnant de dire qu'on est en même temps dans le pays qui fabrique tout dans le monde entier,
oui,
qui inonde
vrai.
Tout et qui inonde la société de consommation par définition.
C'est vrai, mais en même temps, il y a tous ces petits métiers qui perdurent et qui donc chaque fois on est livré, donner plusieurs métiers, mais il y a tous les petits métiers qui continuent.
Une autre question de Marvel à Brazzaville. Des différences de classe sociale sont-elles visibles, par exemple d'un quartier à l'autre?
Ah oui. Oui, là, ça se voit encore. Alors, moins que dans, peut-être, en Inde ou dans d'autres pays qui seraient comparables en termes de population. Mais non, la Chine, ça se voit moins, mais ça se voit quand même. Oui, effectivement, vous allez dans le quartier des affaires et vous voyez les gens, même à quelques rues, hein, puisque le... Moi, je dirais que les routongs, on parle des destructions des routongs, des ruelles. C'est un peu des favelas aussi, les routongs. Parce que pendant la révolution culturelle, favelas, c'est-à-dire les ghettos du Brésil, c'est-à-dire que dans les cours carrés, ces cours carrés où habitaient des bourgeois, hein, il faut dire les choses, sont installés plein de gens qui sont arrivés de l'extérieur. Il n'y avait pas assez de place, on n'avait pas d'immeubles, et donc ils sont installés là. Et donc on voyait, par exemple, dans mes routons, il y a un SDF qui est resté 2 ans dehors, que tout le monde aidait, en treillis, un ancien militaire, visiblement. lui ne ressemble pas du tout effectivement au jeune que l'on peut voir en Ferrari, hein, vraiment c'est
donc,
la question de la journaliste.
Pékin bling bling, voilà. Pékin SDF, Pékin Houtong, hein,
tout le monde se cohabite plus ou moins, hein. Il y a quand même des jalousies, des ressentiments, hein, surtout quand les jeunes très riches ont des passe-droits et puis ils font n'importe quoi sur la route par exemple, ça fâche, surtout quand ils créent des accidents par exemple.
Autre question de Marvel, est-ce que c'est facile pour un occidental de s'adapter, vous qui êtes resté 3 ans et demi, Stéphane?
Moi je me suis senti comme un poisson dans l'eau, hein, très honnêtement, mais après il y a le côté aussi effectivement
magnétophone sorti toute la journée.
Toute la journée, ouais, alors j'ai enregistré tout Pékin, je sais, j'ai des millions d'ambiances que j'ai pas utilisées
là aujourd'hui. Mais... Et le regard des Pékinois sur un Africain qui décide de s'installer. Le monde Marvel.
Bon, moi je crois que le racisme est partout, hein, donc il y en a aussi, il faut pas le cacher. Moi je sais qu'un diplomate africain m'avait dit que c'était parfois difficile le regard des Chinois. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a pas plus de racisme en Chine qu'ailleurs, mais il y en a aussi. Et il y a une méconnaissance de l'Afrique quand même, donc un regard un peu. Bon, à Canton par exemple, il y a beaucoup d'Africains. Beaucoup m'ont dit qu'il y avait beaucoup de racisme, hein, notamment dans les bus. Mais là, à Pékin moins, parce qu'il y a moins d'Africains, mais il y a quand même ce regard parfois un peu déplaisant.
Vivre dans une ville sous cloche, Pékin, avec vous Stéphane Lagarde. Alors la cloche, la chape qui s'abat sur tout citoyen à Pékin, tout habitant, c'est la pollution. Mais il y a aussi cette cloche intellectuelle, cette parole qui est verrouillée et qui est sous cloche.
Oui, ben alors ça, oui, tout simplement la censure, hein, ça existe encore. Alors on voit, ça se traduit par, pour le voir en image, on voit par exemple encore courir sur les murs. Elles ont été rénovées, mais des grandes banderoles de propagande blanche et rouge partout dans Pékin. C'est ça, c'est la parole officielle qui vient dans les médias, qui est tentée d'être canalisée.
Il faut pas oublier que Pékin, c'est le centre du pouvoir. Voilà, hein, c'est là que siège le pouvoir.
Ça reste la capitale des empereurs. Le comité central du parti communiste chinois est encore, ce sont encore des empereurs qui dominent toute la Chine, qui dirigent toute la Chine. Ça descend en pyramide. Et donc, par exemple, Pékin donne l'heure, je vous l'ai dit, jusqu'au Xinjiang, jusqu'à l'extrême ouest du pays. On a l'heure de Pékin partout. Et voilà, on entend de la musique qui arrive. Là, j'entends une fanfare.
On entend une cloche là.
Ah oui.
Alors, quel rapport? Alors d'accord, vivre sous cloche, mais encore.
Voilà, la cloche, c'est à Pékin. Moi, c'est pas les églises qui sonnent les cloches, ce sont les gares. Et notamment, ça peu de gens le savent. Moi, j'habitais pas loin de la gare centrale de Pékin, donc la gare principale. Il y en a d'autres. C'est assez fascinant d'entendre ça. Vous entendez, c'est l'Orient est rouge de Mao, la mélodie qui sonne les heures.
Vous pouvez nous le chanter là?
Non, 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 non. Donc moi je trouve ça très beau, mais ça rappelle quand même aussi les horreurs de Mao, hein, cette chanson, enfin voilà. Et donc c'est toujours aujourd'hui le carillon des heures. Moi je trouve ça vraiment très beau, ça me marque, ça m'émeut même en l'entendant, puisque j'étais à côté de cette gare centrale, et voilà, les heures qui arrivent, le gong traditionnel. Ça c'est la gare centrale de Pékin, qui sonne encore aujourd'hui, l'une des plus mélodies les plus célèbres de la propagande communiste.
Mais comment ce verrouillage de la parole se mesure à la lumière de la vie quotidienne, Stéphane Lagarde? On a l'impression qu'on est surtout dans une vie de consommation effrénée, d'accès au confort, à la modernité.
C'est vrai, les deux sont vrais.
Alors, finalement,
mais par exemple, vous allez dans
un palpable.
Ben, par exemple, vous allez dans un café internet à Pékin. Alors, tout le monde a internet chez soi, mais dans un café internet, il faut donner sa pièce d'identité. On peut pas accéder à l'ordinateur sans donner une pièce d'identité. Bon, et puis on est surveillé. Le net est très verrouillé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes pékinois qui sont pas du tout dans la politique. Hein. Vous savez, il y a eu les événements la répression du 4 juin 89 qui est encore très forte, qui a assommé tout le monde et qui fait que les jeunes font plus de politique, mais en tout cas n'en parlent plus beaucoup, mais on sait que ça existe, on se connaît la censure.
Voilà, et donc une cohabitation entre ce verrouillage et les scandales qui débordent sur Internet, l'indignation aussi de la société civile sur bon nombre de sujets de vie quotidienne, notamment la consommation. Vous restez avec nous, Stéphane Lagarde. Vivre dans une ville sous cloche, Pékin, c'est une émission à tiroir, à double fond, le tout dans un dédale de rue. On se retrouve juste après le flash chez 7 milliards de voisins, dans un peu plus de 3 minutes, avec vos questions et vos commentaires, les voisins et les voisines. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Milliards de voisins, on est ensemble.
bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. C'est l'été chez 7 milliards de voisins et chaque jour je vous emmène dans une ville différente pour y sentir les heures s'écouler dans l'effervescence ou au contraire dans la touffeur de la ville. Et aujourd'hui, vivre dans une ville sous cloche, Pékin, raconté par Stéphane Lagarde qui est dans le studio en direct avec nous. Stéphane, vous avez en partie raconté ce quotidien puisque vous avez passé 3 ans et demi à Pékin. Vous avez raconté ce quotidien de quelques 20 millions de Pékinois à travers votre blog Encre de Chine. Beaucoup de gens vous suivaient à travers ce blog et puis bien sûr tous vos reportages sur RFI. Pékin s'éveille, Pékin s'endort sous cloche, c'est-à-dire on en parlait avec ce brouillard de pollution et puis l'autre chape de plomb, la chape qui s'abat sur la liberté de parole. Alors pendant qu'on parlait en première partie d'émission, Stéphane, des messages ont été postés sur le fil Facebook. Mahamat veut mieux comprendre d'où vient finalement cette pollution. Il nous dit, j'aimerais savoir si du nucléaire civil permet à la ville d'être électrifiée, d'où vient la pollution. Il est à N'Djamena, au Tchad. Il a posté il y a quelques minutes.
Très bonne question, effectivement. Bon, il y a l'explosion des voitures. Moi, j'étais à Pékin en 97, il y avait beaucoup de vélos. Aujourd'hui, on parlait de la capitale des vélos quand même. Aujourd'hui, c'est plus Amsterdam, Pékin. C'est quand même des millions de voitures avec tout un travail du gouvernement pour essayer de faire une circulation alternée, pair-impair, enfin tout ce qu'on connaît ailleurs pour limiter le nombre des voitures. Une vraie explosion du nombre des voitures, des très belles voitures souvent.
Donc c'est Berlin. Essentiellement les voitures, les gaz d'échappement.
Non, il y a aussi, alors ils ont fait aussi avant les Jeux Olympiques, on a déménagé, il faut voir ce qu'ils ont fait, ils ont déménagé une industrie, la plus grande industrie de l'acier qui s'appelle Shukang. Les usines Shukang ont déménagé, ont été envoyées ailleurs, alors tant pis pour ceux qui l'ont reçu, je crois sur la côte est de la Chine, mais à Pékin, donc ça a limité les émissions de grosses particules, ces industries, mais il reste toujours la dépendance au charbon. Pékin se chauffe, continue de se chauffer avec des centrales à charbon et ça pollue beaucoup plus que les voitures encore. Donc voilà, il y a tout ce problème.
Cloche de pollution, brouillard de pollution et puis l'autre chape de plomb dont on parlait juste avant le flash. Comment cette parole verrouillée est palpable au quotidien, bien sûr dans les cafés internet, vous nous le disiez, mais aussi dans ce fameux Pékin esprit village, il y a de la surveillance partout.
Oui, alors il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, mais effectivement il y a ces volontaires, ça c'est propre pas qu'à Pékin, il y en a d'autres dans d'autres villes, dans les grandes villes de Chine, mais là il y en a beaucoup. Ce sont des personnes du quartier, des retraités, souvent avec des brassards rouges qui sont déployés dans les ruelles et qui rapportent un peu ce qui se passe. Alors ils rapportent ça au parti.
Donc au moins ils sont repérés.
Mais ils gèrent aussi la vie quotidienne, c'est-à-dire quand il y a un divorce qui se passe mal, ils sont là aussi pour. Ça va plus loin que juste la politique. Mais quand il y a des congrès, quand le Parti communiste se rassemble, quand les députés se rassemblent à Pékin, alors là il y a une vraie paranoïa du régime et ça s'arrange pas, d'après ce que me disent mes amis correspondants qui sont restés à Pékin. Non, il y a une vraie paranoïa. Là il y a des milliers de volontaires qui sont déployés dans les rues, sur les avenues qui mènent notamment à la place Tiananmen, le cœur névralgique du pouvoir, là où se trouve le Parlement. Et donc il y a tous ces volontaires qui reçoivent parfois, une partie d'entre eux, c'est aussi quelque chose de social, qui reçoivent une indemnité. On reçoit un anorak quand c'est l'hiver par exemple, pour être volontaire pour surveiller les rues avec son brassard rouge, et on reçoit aussi une petite indemnité quand on est volontaire dans le métro par exemple. Ça sert aussi, il y a un côté social qu'on côté moins derrière ça.
Mais vous diriez que Pékin est la ville la plus surveillée de Chine?
Oui, c'est définitif, puisque c'est le cœur du pouvoir, encore une fois, et que le pouvoir chinois est souvent paranoïaque, craint. Ça va très loin. Par exemple, lors du 18e congrès, le dernier grand congrès du parti, on nous interdisait d'acheter des jouets télécommandés. On avait un petit hélicoptère télécommandé au bureau. On n'avait pas le droit de l'utiliser, même s'il va à une portée de 3,50 m. On n'avait pas le droit d'acheter des balles de ping-pong, de peur qu'on les jette avec des slogans sur la place Tiananmen par la fenêtre des taxis. Les fenêtres arrière des taxis étaient condamnées. Donc ça va très loin, effectivement.
À quoi rêvent les jeunes dans tout ça, à Pékin? Rêvent-ils de consommer ou plutôt de parler librement? On y revient dans quelques instants avec vous, Stéphane Lagarde.
Yeah.
dans une ville sous cloche, Pékin, en direct sur RFI, avec Stéphane Lagarde. Alors ça sonne électro, ça plaît aux jeunes, Stéphane Lagarde,
ouais,
à Pékin.
Ça s'appelle un peu fou, hein, le titre de cette chanson qui a beaucoup tourné sur les platines il y a 2-3 mois. En tout cas,
vous
ils
pouvez
en
nous
en
dire
beaucoup.
Le titre avec le bon accent, là, parce que moi je vous...
Fang Quang, voilà. Et moi c'est un titre que j'aime beaucoup, mais il y en a beaucoup. Moi j'habitais à côté d'un disquaire, on achète encore des disques, hein, malgré les copies, on achète encore des vrais disques
à
Pékin. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des groupes.
Des vinyles, vous voulez dire?
Non,
des CD.
Mais enfin, ouais. On achète aussi des disques à 1 euro, hein, partout dans les rues, il y a beaucoup de copies, mais il y a encore des groupes qui se produisent, notamment grâce au festival dans les montagnes. Alors on parlait de la chape de plomb, même pour les jeunes, là c'est difficile parfois parce que les festivals, la bière est interdite, donc un festival de rock avec la bière interdite, c'est un peu saugrenu, donc ça passe sous le manteau, par exemple l'alcool dans les festivals. Ça reste très surveillé là encore avec la police qui déplace parfois les festivals, mais beaucoup de scènes de rock. Et puis il y a 17 lignes de métro aujourd'hui, hein. Il y en avait 5 avant les Jeux Olympiques. Tout va très très vite, Emmanuel, en Chine. Et quand vous allez dans une ligne de métro à Pékin aujourd'hui, les jeunes ils ressemblent à ceux de Séoul ou de Tokyo, hein. Il n'y a plus de différence, ils sont habillés, mais c'est très très tendance, très mode, avec des casques incroyables.
Mais alors, dans le fond, à quoi rêvent-ils? Consommer ou parler librement? C'était la question que je posais.
Je pense que d'abord, on essaye de consommer, de vivre, de profiter de ce développement économique qui a été fulgurant. Ça change la vie par rapport aux vieilles générations, qui, je vous parlais des toilettes publiques, donc ça crée d'ailleurs des problèmes, puisque on disait le bonheur en Chine c'était 4 générations sous le même toit. Aujourd'hui on voit des parents, même à Pékin, esselés, c'est-à-dire que des grands-parents qui portent plainte contre leurs enfants, qui viennent plus les voir pendant les fêtes traditionnelles par exemple. Donc il y a des procès aujourd'hui parce que ces grands-parents-là, eux, n'ont pas de retraite. On parlait aussi de différence entre les gens, il y a les retraités qui n'ont pas du tout de retraite, qui sont très pauvres, certains vieux chinois en tout cas, ceux qui sont pas propriétaires. Et puis voilà.
Et donc, on est donc encore dans cette course au confort, à la satisfaction matérielle.
Mais plus que ça, quand vous allez dans des quartiers de Sanlitun, qui sont des quartiers au départ pour les expatriés, et puis qui sont que les Chinois. De toute façon, l'esprit chinois s'approprie de tout, et c'est très bien comme ça, c'est la culture. Vous prenez un centre qui a été construit par une Libanaise qui s'appelle Galaxy Soho, qui sera un futur department store, un des plus beaux de Pékin. Il est vide, c'est une coquille vide. Imaginez cela à Paris ou à Brazzaville, un tout nouveau bâtiment magnifique. Il est vide pour l'instant parce que c'est trop cher. Il y a aussi le problème du logement, je vais y revenir, mais c'est très cher. Pékin, c'est très difficile pour les jeunes, hein. Ils sont de plus en plus poussés dans les banlieues. Mais dans ce bâtiment vide, dans ce Galaxy Soho, les gens, l'été, quand il fait très chaud en ce moment, je suis sûr qu'ils y sont, mes amis, ils sont là-bas. Mes amis chinois, ils se mettent dans ce bâtiment, on rentre, les escalators tournent, il y a quelques surveillants, et on s'installe, on joue aux cartes, on joue au badminton, hein, c'est ça, dans les couloirs d'un centre commercial flambant neuf. En France, on n'aurait pas le droit, par exemple.
Et vide de commerce.
Donc il y a toutes les jeunes, et les jeunes et les vieilles générations. Alors les jeunes rigolent souvent, mais on voit les vieilles danser, les vieilles dames qui dansent, qui se mettent sous ces tours de béton toutes neuves et qui se mettent à danser comme dans les routongs sur les places. Ils dansent tous les soirs à la nuit tombée parce qu'il fait tellement chaud qu'on danse.
Alors ça,
et on chante.
Ça poste pas mal sur Facebook, Stéphane, un auditeur qui nous dit déjà, surtout n'écorchez pas mon prénom, donc je vais m'appliquer, Suni Noko Mahamat, qui est un N'Djamena, et qui nous dit je suis étonné, j'ai appris qu'il y a pas mal de cimetières en Chine et surtout à Pékin. Les morts sont posés derrière des vitres à la morgue pour 3 jours et ensuite ils sont jetés dans l'océan et la mer. Est-ce que c'est vrai? Voilà, parfois j'ai pas envie de manger les poissons chinois.
Alors moi, c'est drôle. Je sais pas si ça peut exister, c'est possible. Bon, maintenant, effectivement, dans la tradition chinoise, on était enterrés et il y a de plus en plus d'incinération pour faute de place, hein. On n'a plus de place dans les cimetières. Mais enfin, allez, il faut quand même aller dans les cimetières de Pékin pour voir ce que c'est. C'est extraordinaire parce que la tradition chinoise, c'est d'honorer les ancêtres en déposant alors une bouteille d'alcool, une orange sur les tombes. Ils sont toujours aussi nombreux, mais il y a moins de place, donc il y a plus d'incinération et ça.
Avant de parler de la mort, parlons déjà d'une vie passée à Pékin, Stéphane. Une vie au travail à Pékin, ça ressemble à quoi? Cliché, pas cliché ou pas?
Bon, les Chinois travaillent beaucoup, hein, ça c'est pas un cliché, c'est vrai. Je vous parlais de mon coiffeur de rue, là, 1 euro dans la rue, lui, toute l'année. Je l'ai jamais vu prendre des vacances, ce monsieur. Alors peut-être qu'il en prenait dès que je partais dans mon dos, hein, il me prenait des vacances, ça m'étonnerait. Il y a des gens qui prennent jamais de vacances.
Mais pourquoi? Parce que quand on a la chance d'avoir le permis de travail pour être à Pékin, il faut en profiter à tout prix?
Oui, non, c'est pas ça, c'est parce que
tout simplement. Parce que tout le monde ne peut pas venir
travailler. Non, pour gagner sa vie, c'est une ville de plus en plus chère. C'est très, très difficile de se loger aujourd'hui à Pékin. Il faut gagner sa vie. Et donc, quand on n'a pas d'autres revenus, il n'y a pas d'aide sociale, ça c'est beaucoup moins qu'en Europe, par exemple, eh bien, on travaille tous les jours. Après, la jeunesse de Pékin et la jeunesse, disons, de la classe moyenne, une certaine classe moyenne aisée, qui a pu se loger, qui a pu se marier, enfin, trouver un logement, elle prend des vacances, hein, va à Bali, va en Thaïlande, ça a changé beaucoup. On va même plus, justement, dans les familles, l'hiver, on essaye de limiter la visite aux grands-parents et aux parents. On préfère aller se balader en Thaïlande.
Mais alors, revenons à ces familles pauvres ou modestes, parce que pour venir travailler à Pékin, il faut un permis de travail, comme dans toutes les villes chinoises. C'est plus dur encore à Pékin?
Ah là, c'est un système qui est incroyable, qui perdure aujourd'hui, qui devrait être réformé. Ça s'appelle le RUCO, le permis de résidence. C'est un peu comme un visa de travail quand on passe de pays à pays. Ça montre aussi l'ampleur de ce pays, le côté gigantesque de ce pays continent où les provinces font parfois plusieurs pays en taille. Et donc, on a un visa de travail pour travailler de province à province, de ville à ville, et notamment à Pékin, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de visa de travail. Il y a des, devant le ministère de l'Éducation, ça pose problème parce que pour passer le bac, ils doivent quitter, ils ont fait leur scolarité dans des écoles spéciales fabriquées à la, des écoles qui sont pas officielles, pour les migrants, pour ces gens qui travaillent, il y en a beaucoup qui travaillent à Pékin et qui n'ont pas le visa de travail, qui viennent des campagnes. Donc, c'est de la discrimination absolue. On n'a pas les mêmes droits. On n'a pas les mêmes, même dans les, en termes d'éducation. Donc, c'est un gros problème et ça fait deux types. On dit un pays de système avec Hong Kong, c'est un pays de deux types de citoyens, là. Donc, c'est vraiment très difficile.
Et ceux-là se logent encore plus mal que les autres, vous le disiez. Le logement est cher à Pékin, mais pour ceux-là, ce sont les reportages que vous avez fait sur RFI, les cités dortoirs, les sous-sols.
Alors, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Il faut quand même voir que les choses s'améliorent, mais il y avait des sous-sols, effectivement, même au cœur de Pékin. Moi, j'ai été voir des gens qui ne pouvaient pas se loger sur la terre, donc étaient en sous-sol dans les caves, et qui est des travailleurs, migrants, justement, qui sont logés par des propriétaires un peu malhonnêtes dans les sous-sols. Et puis, il y a toutes les cités dortoirs dans de nombreuses grandes villes, pour les étudiants notamment. Donc, on appelait ça les cités fourmis, ils prenaient ces lignes de métro et puis ils venaient travailler au centre.
On travaille beaucoup, vous nous le disiez, Stéphane Lagarde, à Pékin, et malgré tout, parfois, pour le journaliste vibrionnant que vous êtes, le temps passe encore trop lentement à Pékin, notamment dans les embouteillages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la conversation avec des chauffeurs de taxi.
Audi. Pardon. Roma. Pardon. 梅赛德斯 奥迪 尼桑 奔驰
奥迪 Mercedes
多了
法国的吧
标志
Bonjour, au revoir, merci, pardon. Italie, buongiorno, grazie. Japan, inasa, konnichiwa, ahoyo, gozaimasu. Danmark, kudefawen, takumutsuku. Russia, torasachi, sabachibo, divinichi. Korea, anihashimika, kamasamda, neikajibijo. Mongolia, sambinu, berra, roja, rra, rrde. Germany, kudemogen, gorabin, gorintak. Merci, sisi.
我要去西藏仰望雪域两茫茫风光旖旎草色青青随处都是我心灵的牧场 Voilà quelques extraits de tout ce qu'on peut enregistrer quand on s'appelle Stéphane Lagarde et qu'on passe du temps dans les taxis à Pékin.
Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chauffeurs de taxi. Je peux vous dire que c'est peut-être comme dans beaucoup de villes les moins aimés, ces chauffeurs de taxi, qui sont tous pékinois, en tout cas théoriquement, de par la loi. Et ils sont assez extraordinaires parce que ils chantent dans les taxis. Là, vous avez entendu, il y en a un qui comptait au feu rouge le nombre de voitures étrangères qui arrivaient. Vous
Audi,
imaginez,
Mercedes,
il y a beaucoup de berlines allemandes, énormément. Alors Dajong, c'est Volkswagen, Audi, Mercedes, vous avez compris, Benz, donc en chinois. Il est drôleux, il y en a beaucoup. Il y en a un qui chante Je veux aller au Tibet, c'est une chanson très connue en Chine. Voilà, bon, vous avez entendu ça. Il y en a un qui est polyglotte, qui a appris tout. Merci, bonjour, au revoir. Mais c'est pas facile, les chauffeurs de taxi, notamment. On râle tout le temps quand on est étranger, notamment, parce que, à RFI, au bureau de RFI, je travaillais avec une assistante qui avait toujours les taxis. Elle se mettait à 10 mètres de moi pour les avoir et moi, je les avais jamais. Et un jour, on demandait, alors, parce qu'elle parle parfaitement chinois, elle est journaliste, mon assistante, donc elle demandait, mais pourquoi vous avez pas pris le blanc, là, qui était derrière? Et ils avaient toujours des raisons. On pense que c'est du racisme, c'est pas ça. C'est que beaucoup sont des touristes qui veulent toujours aller dans les embouteillages. Alors ça les fait râler parce que le revenu des chauffeurs il a augmenté. Mais sinon le revenu des chauffeurs de taxi pékinois est celui qui a le moins augmenté dans la société. Donc ils en avaient marre d'être coincés avec des touristes qui voulaient aller au palais d'été dans les zones embouteillées ou à Sanlitun, un quartier commerçant par exemple. Et puis il y en a d'autres. Il y a un argument qui, moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'encore une fois, moi j'ai pas lésiné non plus sur la cuisine chinoise que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un qui me dit, mais vous savez, les Américains, on les prend pas parce que ça coûte plus cher en essence, parce qu'ils sont gros. Voilà, des choses comme ça, des arguments complètement incroyables. Donc des fois, alors quand il pleut, on n'a jamais un taxi, la pluie, tout s'arrête. Donc ils sont pas aimés ces chauffeurs, mais moi je suis tombé quand même. J'en ai trouvé des formidables qui me chantaient des chansons, qui me parlaient dans toutes les langues, enfin dans toutes les langues quelques mots.
Ouais.
Mais ils sont quand même extraordinaires. Et c'est vraiment l'esprit de Pékin ça aussi.
Pékin. Alors Paris, on dit, se vide au mois d'août. Pékin se vide en février parce qu'il y a bien une société de loisirs à Pékin. Stéphane Lagarde, que se passe-t-il à Pékin au mois de février? Pékin se vide, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors là, beaucoup de choses. Il y a une des chansons traditionnelles qu'on entend tout le temps pour les enfants pendant le nouvel an lunaire. Ça agace d'ailleurs mes amis pékinois, ça leur sort par les oreilles parce que pendant 15 jours, ça dure au moins 15 jours ce nouvel an lunaire, c'est les plus grandes vacances chinoises. Tous les pékinois d'ailleurs, vous avez raison, quittent la ville, enfin les pékinois aisés vont dans les familles, prennent le train, prennent l'avion, prennent la voiture pour aller dans leur famille en province, dans leur village natal, voir les grands-parents ou leurs parents. Et il y a cette musique qui est dans tous les magasins. C'est la société de consommation. Alors là, il y a des queues au supermarché, c'est incroyable. On achète l'animal de l'année nouvelle, hein, donc le serpent, le dragon, enfin ce que vous voulez. Chaque année, il y a un nouveau. Voilà. Et puis on entend cette musique. Et puis là, on entend les feux d'artifice. Moi, ça, au bout de 3 ans et demi, on s'en lasse un peu. Mais il faut imaginer ce que c'est. Alors ça a été limité aussi pour des raisons de pollution. Là encore, hein, les feux d'artifice, ça crée des microparticules dans l'air. C'est inimaginable. C'est Pékin sous les bombes. Il n'y a pas une ville dans le monde qui a autant de feux d'artifice. Le feu d'artifice, vous savez, c'est la tradition pour chasser les mauvais esprits. Dans les ruelles notamment, on lançait des pétards. Hein, ils ont inventé les pétards, les Chinois. Et à Pékin, moi, j'en ai vraiment.
Je suis. Que ça dure pendant plusieurs jours.
Ah oui, pendant 15 jours, oui. Voilà. Oui. Et donc le premier soir, c'est incroyable. La veille du nouvel an lunaire, c'est incroyable. Et là, c'est vraiment Pékin sous les bombes. On se cache dans les rues. On est en même temps excité. Il y a de 7 à 77 ans, on voit des monsieur de 50 ans, des vieux monsieur qui sortent avec des petites caisses pour faire péter leurs pétards. Alors, c'est des gros pétards. Il y a des accidents tous les ans parce que c'est pas les petits pétards qu'on a chez nous. Ça explose de partout. Moi, c'est très émouvant parce que j'adore cette période-là. Il y a aussi, on a entendu les moulins à vent, qu'on vend les moulins traditionnels aux enfants dans les temples pendant cette période. Et c'est vraiment là, pour le coup, l'esprit pékinois. Ils ont voulu interdire les pétards. À une année, ça a été impossible parce que la population a râlé. C'est vraiment une période magique. Moi, je dis n'allez pas visiter le palais d'été si vous n'avez pas beaucoup de temps. Venez pas l'été à Pékin, venez l'hiver. C'est très très froid, mais ça vaut le coup. Prenez un train depuis Baoding, prenez le train tout lentement, le TGV qui arrive sur Pékin. Prenez un train, venez de la banlieue de Pékin et laissez-vous aller. Et là, vous voyez, c'est comme en apesanteur, on voit sans le son puisqu'on est dans le TGV chinois. Et là, on voit tous ces pétards qui sautent partout. C'est magique, c'est une ville merveilleuse à ce moment-là. C'est vraiment très très beau.
dans une ville sous cloche, Pékin, raconté par Stéphane Lagarde, qui signe aussi la programmation musicale. Que vient-on d'entendre là?
Alors là, c'est une balade qui vient du sud, en fait, du Yunnan aussi, qui raconte le Yunnan, mais qu'on entend dans tous les cafés, enfin dans beaucoup de cafés où j'allais passer régulièrement. C'est une balade.
Mais là, finalement, vu du reste de la Chine, vivre à Pékin, ça veut dire quoi pour les Chinois?
C'est quand même être au cœur de ce qui se passe. Alors, la capitale économique, ça reste Shanghai, mais moi, j'ai rencontré une jeune traductrice qui parlait le français, rêvait d'aller à Pékin. C'est un rêve pour beaucoup de Chinois quand même, parce que
parce
c'est
que
le capital.
Parce que c'est la ville impériale.
Parce qu'il y a les réseaux, parce que c'est très important en Chine, les réseaux. C'est là qu'on fait. Il y a quand même pas mal d'entreprises étrangères. Ça permet aussi de sortir de
trouver des. Ça veut dire finalement que celui qui connaît Pékin ne connaît pas la vraie Chine.
C'est pas vrai. C'est ce qu'on dit aux journalistes quand ils arrivent à Pékin. Sortez absolument, prenez le train, sortez de Pékin parce que vous connaîtrez pas la Chine. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve qu'il y a toute la Chine est à Pékin et que c'est justement. Vous avez les brochettes Ouïghours, hein, les Ouïghours du Xinjiang qui vendent leurs brochettes dans la rue quand ils peuvent, pas dans les congrès, mais sinon quand ils peuvent. Il y a les, je vous ai dit, les habitants des plateaux tibétains. Il y a toute la Chine qui est là, les musulmans. Il y a des quartiers musulmans dans les Routong, c'est fabuleux. Hein, vous avez tous les restaurants musulmans. Et puis vous allez, moi je suis tombé amoureux de cette ville il y a longtemps. Il y a des grandes avenues sans âme. Quand même, il y a des choses pas jolies à Pékin. C'est pas que joli. Il y a le gris en haut, puis il y a les grandes avenues. Vous allez sur une passerelle piétonne. Il y a beaucoup de passerelles, hein, parce que la voiture est reine là-bas. Et on passe sur une passerelle. Là, vous voyez ces numéros de Mingong marqués sur la passerelle, les petites passerelles qui surplombent les périphériques. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus joli.
Les périphériques.
Mais vous voyez, là, sur ces passerelles, il y a toute la Chine, encore une fois. Tous ces gens qui viennent de partout, qui arrivent à la gare et qui se mettent sur ces passerelles pour vendre des petits trucs. C'est vraiment, non. À Pékin, c'est toute la Chine, effectivement.
Stéphane Lagarde, vous venez de rentrer en France et pour calmer vos ardeurs d'homme pressé, vous avez choisi le train pour quitter la Chine. Quelle drôle d'idée. Pékin-Moscou.
Je suis pas le seul à le faire, ça.
Oui. C'est vraiment, cette nuit dans le train, quand même. Hein.
Voilà, cette nuit dans le train, 20 jours de trajet, on s'arrête quand même sur la route. On passe par la Mongolie, on passe par le nord de la Chine, le Dongbei, le nord de la Chine, et puis évidemment la Russie, le plus grand pays du monde. Donc on traverse tout ça. C'est aussi parce que on passe vraiment, là, on sent les heures passer, on passe vraiment de l'Asie à l'Europe en douceur et on sent cette transition qui se fait très
doucement. Vous aviez besoin cette transition aussi pour vous, peut-être?
Oui, parce que je suis toujours un peu à Pékin quand même. Bon, là, je suis dans votre studio, je suis ravi de retrouver les filles et le studio. Vraiment.
Mais aujourd'hui, alors, vous êtes à Paris, est-ce qu'il y a des odeurs, il y a des images, il y a des voisins qui vous manquent déjà ou pas?
Ah oui, Pékin. Oui, puis souvent mon épouse se moque un peu de moi quand je sors avec un porte-clés attaché, quand je suis un peu détendu trop, notamment. Je serais prêt à sortir en survêtement maintenant dans les rues de Paris, ce qui se fait peu,
le ventre à l'air.
Voilà, et sans, non, pas le ventre à l'air quand même.
Et
je suis beaucoup plus décontracté qu'avant, je crache pas par terre, hein, comme certains Pékinois, vieux Pékinois, mais je suis détendu, quoi. Et donc, un peu esprit village, parfois c'est compliqué à Paris, hein, voyez. Et puis, on parle à tout le monde, enfin,
des voisins ou des voisines qui vous manquent aussi, parfois.
Ah oui, oui. Ouais, vraiment beaucoup, même des employés de banque qui m'ont aidé, tout. Moi, j'étais dans mon quartier, j'avais beaucoup d'amis, même sans parler bien le chinois, je le parle très mal. Mais j'ai gardé des amis, j'y retournerai, c'est sûr.
Un éternel regret ou un goût amer, malgré tout?
Ah non, que du bonheur. Parce que c'est une expérience formidable, et puis on y retourne, on peut pas non plus habiter à Pékin tout le temps. Personnellement, j'ai eu un fils à Pékin, qui est né à Pékin, et c'est très difficile.
Qui n'est pas franco-chinois, hein.
Non, qui est franco-coréen, mais qui est né à Pékin, et c'est très difficile pour une famille aujourd'hui, avec la pollution, notamment. On vit sous cloche, encore une fois. Donc, par exemple, le lycée français l'année dernière est le seul lycée à avoir une dispense de sport au bac, parce qu'il n'avait pas eu assez de cours de sport dans l'année, parce que les lycées les plus riches ont des dômes, mais c'est quand même assez rare pour faire du sport sous dôme. Donc, la pollution pour un enfant, c'est difficile à Pékin.
Y compris sur le plan vraiment médical.
Oui,
hein,
c'est
on est
ça.
Bien
oui,
d'accord.
Oui, oui. Hein. Ben oui, les hôpitaux.
Ça veut dire pas de sortie dans les parcs
Certaines fois, c'est interdit, oui, pour les sorties scolaires. Aujourd'hui, ils ont mis du temps, mais même les écoles chinoises, certains jours, quand il y a un taux de pollution trop élevé, eh bien, on ne sort pas dehors, on ne fait pas de sport dehors, on ne fait pas de sortie scolaire, oui, effectivement.
Ouais. Mais vous n'avez pas voulu me répondre, finalement, un éternel regret. Oh, il y en a bien un, tout de même,
ah,
Stéphane.
Oui. Oh, vous voulez dire ce qui me manquera le plus
oui,
à Pékin?
Oui, peut-être, oui.
Moi, par exemple, les vendeurs de courses séchées, j'en ai une encore dans la poche, je l'ai pas amené dans la poche, là, je l'ai oublié, mais ces petites courses séchées qu'on frotte.
Ces petites quoi?
C'est des courges séchées ou des noix, même des noix, c'est pareil, ça c'est vraiment très pékinois. On vend ça dans les rues de Pékin, ce sont des vieux qui ramassent les noix, et les chauffeurs de taxi, notamment, les frottent, c'est une vie à frotter ces courges séchées, qui deviennent très lisses, très belles, et ça c'est le temps qui passe. Non, j'ai oublié, désolé. Mais ça, par exemple, ça va me manquer, mais j'en ai ramené une en France. J'espère qu'elle va durer durer longtemps et je la continuerai à la tenir dans mes doigts pour la polir.
Pour tenir Pékin dans vos mains. Voilà. Merci à vous, Stéphane Lagarde, de nous avoir fait partager quelques heures de vie
c'est
quotidienne à Pékin, de vos années à Pékin. Il reste aussi un magnifique blog, Encre de Chine, sur le site RFI.fr que beaucoup d'internautes ont déjà partagé avec vous. Rejoignez le blog. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Pour toutes vos réactions, vous pouvez bien sûr nous écrire à 7milliards@rfi.fr et également réécouter toutes les émissions en podcast de la série d'été et du reste de l'année. Et la série d'été continue chez 7 milliards de voisins. Demain, retour en Afrique, vivre dans une ville sortie du sable. Nouakchott, en Mauritanie, avec Laura Martel, ancienne correspondante dans la capitale. Si vous êtes rentrée au village pour l'été, restez en ville avec nous. À demain, les voisins et les voisines.